Nous sommes heureux de nous retrouver pour louer le Seigneur et ouvrir la parole de Dieu que je vous inviterai à ouvrir dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5 et au verset 22. Donc nous continuons cette série sur l'Esprit. On a parlé bien sûr la dernière fois du baptême dans le Saint-Esprit. On avait parlé aussi de la régénération, de la sanctification. Et aujourd'hui je voulais partager avec vous sur ce thème du fruit de l'Esprit. Donc Galates chapitre 5, verset 22. Galates 5, 22. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. » Le fruit de l'Esprit, ça évoque un développement lent et progressif. Contrairement, on va le voir par la suite, au don spirituel, dans un autre partage. Les dons spirituels sont instantanés et ponctuels, tandis que le fruit de l'Esprit, nous le portons et nous devons le développer au fur et à mesure de notre marche chrétienne. Donc, qu'est-ce que le fruit de l'Esprit ? Le fruit de l'Esprit, ça signifie le caractère de Christ qui va se développer en nous. Alors, on va voir que les 9 caractéristiques du fruit de l'Esprit, bien Christ les a pleinement manifestées, et comme nous devons nous conformer à l'image de Christ, eh bien, ce fruit de l'Esprit va nous aider justement à développer ses caractéristiques dans la maturité chrétienne. Quand nous recevons le Saint-Esprit, donc, on dit on est le temple du Saint-Esprit, on l'a vu à la régénération, on l'a vu dans la sanctification, l'Esprit de Dieu est en nous, mais le but du Saint-Esprit en nous, c'est de nous transformer, de nous conformer à l'image de Jésus. Et ça, ça va prendre du temps. Une autre remarque, c'est que quand on parle du fruit de l'Esprit, ce n'est pas notre fruit, c'est le fruit de l'Esprit. Donc c'est vraiment une action de l'Esprit qui agit en nous pour nous transformer. Et Paul, dans le contexte de ce passage, Galates 5, 22, met en opposition les fruits de la chair ou les fruits de la nature humaine irrégénérée en opposition aux fruits de l'Esprit, c'est-à-dire les fruits de la nature régénérée, de celui qui est né de nouveau. Eh bien, dans sa vie, automatiquement du fait qu'il est né de nouveau, il va porter certains fruits. Et ça va être la conséquence de l'action de l'Esprit en lui. Alors, tout chrétien est appelé à manifester ces 9 facettes. On va voir la première. Donc, on l'a lu ensemble, hein, le fruit de l'Esprit. D'abord, c'est l'amour. Il y en a 9. L'amour agapé, dans le grec, agapé, qui signifie un amour qui consiste à prendre point des autres, à prendre soin des autres, à chercher ce qu'il y a de mieux pour les autres sans vouloir tirer un profit personnel. Alors, un texte que nous pouvons lire, c'est Jean 13, versets 34 à 35. C'est Jésus qui nous l'a enseigné. « Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » On se rend compte que Jésus lui-même a laissé un exemple vivant de ce qu'il voulait au niveau de l'amour fraternel. Il a aimé les autres. On voit que Jésus, devant les foules, il était ému de compassion. On voit que la Bible dit qu'il a mis le comble à son amour par rapport aux disciples. Il les a aimés au comble. Alors, quand il est dit « je vous donne un commandement », bien Jésus est en train de nous donner un ordre, une directive. Le Seigneur est tout-puissant et il a le droit de nous ordonner quelque chose. Il est le Seigneur et le roi des rois. Donc, s'il nous dit « aimez-vous les uns les autres », il ne nous le demande pas d'une manière « s'il vous plaît, ça serait bien que vous vous aimiez les uns les autres ». Il nous l'ordonne comme il est souverain et seigneur des seigneurs. Autrement dit, si nous sommes réellement disciples de Jésus, nous devons nous conformer à cet ordre divin, s'aimer les uns les autres. Alors, Jésus n'a pas demandé aux disciples s'ils avaient envie de le faire, si ça leur plaisait d'aimer un tel ou un tel, non. Il a simplement dit « aimez-vous les uns les autres ». Et ce que nous comprenons dans l'amour fraternel, agapé, ce n'est pas simplement un sentiment, parce qu'il y a l'affection qui est là dans les cœurs, mais c'est aussi une décision d'aimer, une décision de se soumettre à l'ordre de Jésus qui nous demande de nous aimer les uns les autres. Vous avez ces deux aspects dans l'amour, l'aspect du sentiment d'aimer, mais aussi l'aspect d'obéir volontairement à la décision, à l'ordre de Dieu. Aussi, la Bible dit « aimez-vous les uns les autres ». Donc on voit une réciprocité et ça va évoquer tout à fait l'Église, parce que dans l'Église, c'est la relation que nous avons les uns avec les autres, une relation basée sur l'amour. Donc ça, c'est très important. On a tous besoin les uns des autres. On a besoin du frère, on a besoin de la sœur, et on ne peut pas se dire, ben moi, je n'ai pas besoin de l'Église, je peux vivre ma foi loin des autres. Ce n'est pas ce que Jésus a voulu. Il a dit, je bâtirai mon Église, et il a voulu que les chrétiens se rassemblent et vivent l'amour fraternel. L'Église répond à deux de nos plus grands besoins, qui est premièrement le besoin d'être aimé, et puis le besoin d'aimer. Et ces deux besoins bien, sont accomplis dans l'Église, parce qu'elle est prévue pour être un lieu d'amour, un lieu d'accueil, un lieu de partage fraternel. On se rend compte aussi que Jésus attend de nous un amour élevé, quand il dit « aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé », ce qui signifie « à la manière dont je vous ai aimé, en proportion à laquelle je vous ai aimé, de la même hauteur de mon amour ». Donc, pour Jésus, il demande que nous nous aimions fortement les uns les autres, à la manière dont Jésus nous a aimés. Et Jean l'a bien compris comme cela quand il écrit dans 1 Jean 3,6, je voulais vous lire ce verset, 1 Jean 3,16, pardon, on se rend compte qu'il reprend cette même pensée de Jésus qui va à un amour très élevé allant jusqu'au sacrifice. Hein. 1 Jean 3,16, il dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. » Alors là, il fait allusion à Jésus. « Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Et là, il s'identifie à l'amour de Jésus. Puisqu'il dit, son raisonnement est le suivant, puisqu'il dit « Jésus nous a aimés au point de donner sa vie pour nous », ça c'est l'amour de Jésus. Mais nous, il dit en quelque sorte, nous devons nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés, donc nous devons, la conséquence, nous devons aussi donner notre vie pour les autres. Et c'est bien ainsi que Jean donc, a compris cette parole de Jésus, un amour élevé, un amour aussi visible aux yeux du monde, puisque la Bible dit que les autres tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Dans le verset que nous avons lu, tous connaîtront, donc en nous aimant les uns les autres, eh bien cet amour fraternel unique va être une sorte de témoignage vivant de ce que doit être l'Église. Elle est différente de la société, nous ne sommes pas comme le monde, nous ne sommes pas du monde. Bien sûr, nous accueillons tout le monde dans l'Église, c'est un lieu ouvert, mais en même temps, les véritables chrétiens sont nés de nouveau et ont un amour fraternel qui est différent et unique par rapport à celui que le monde propose. Cet amour, en fait, il n'est pas d'origine humaine. Il est créé par le Saint-Esprit dans les cœurs. Et c'est ça qui va nous unir par le lien de l'Esprit. Ce n'est pas juste sentimental, c'est spirituel. L'amour agapé, il est spirituel. Et ça, c'est une caractéristique importante. Et pour Jean aussi, l'amour, c'est une caractéristique évidente du chrétien. Je lisais tout à l'heure dans 1 Jean 3, un autre verset, peut-être au verset 7, parce qu'il est en train d'expliquer que si quelqu'un n'aime pas son frère, alors il n'est pas né de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Il reprend la parole de Jésus. Car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, on se rend compte que l'amour, c'est une caractéristique essentielle du chrétien. Celui qui n'aime pas, s'il n'y a pas d'amour dans mon cœur pour les frères, pour les sœurs, c'est que je n'ai pas vraiment une vie avec Dieu, ce n'est pas possible. Je suis en train d'expliquer cela. Ça, c'est la première caractéristique du fruit de l'esprit, que l'amour donc se développe au milieu de nous. La deuxième, c'est la joie qui est littéralement un sentiment de contentement basé sur l'amour, sur la grâce, la bénédiction, les promesses et la proximité de Dieu. La joie. Jean 15, 11, Jésus nous l'a dit. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors Jésus va nous enseigner sur la vraie joie et la caractéristique du fruit de l'esprit après l'amour vient la véritable joie. Ce n'est pas la joie éphémère qui existe dans ce monde, on peut avoir des sentiments joyeux comme cela, non. C'est une joie qui vient du ciel. Cette joie, elle vient par exemple, on le voit quand Jésus était avec ses disciples qui reviennent de mission, ils sont allés évangéliser, et il a une sorte de vision, il dit « je vois Satan tomber du ciel », et la Bible dit qu'il s'est mis à tressaillir de joie, et ainsi il a exprimé une joie de voir l'œuvre de Dieu s'accomplir, de voir le royaume de Dieu s'étendre et les ténèbres reculer. C'est une joie spirituelle, c'est une joie qui vient du ciel. mais c'est une joie profonde. Et la joie, c'est cet état de profond contentement, et c'est un état de, qui nous permet d'avoir une bonne... C'est la conséquence, si vous voulez, de notre bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Quand on est en paix avec Dieu, quand on reçoit de Dieu la joie, bien voilà, on l'exprime. Alors la joie, elle n'est pas toujours faite dans des moments faciles. Je pense à Actes chapitre 5, 41, verset 41. On voit ici que les apôtres ont été malmenés par les pharisiens et les scribes. Et ils ont été menés devant le Sanhédrin. Et là, ils ont été jugés et condamnés sévèrement. Et puis, Acte 5, verset 41 nous dit, « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. » Est-ce que vous aimez bien subir des outrages pour le nom de Jésus, en général? Oui ou non? Plutôt non. On n'aime pas qu'on nous persécute, on n'aime pas être repris à cause du nom de Jésus. Ça, c'est normal. La réaction normale des apôtres, ça aurait été d'être triste, d'être déçu, d'être abattu, de rentrer chez eux. Mais le fruit de l'Esprit était développé en eux, et c'est une joie surnaturelle qui est venue sur eux. Ce n'est pas une joie naturelle, parce qu'il n'y avait aucune raison de se réjouir humainement, mais spirituellement, ils étaient quand même joyeux, parce que le Seigneur a mis de la joie dans leur cœur. Et c'est cette joie-là qu'il nous faut, frères et sœurs, parce que dans les moments difficiles, on n'a aucune raison de se réjouir. Peut-être on passe par un moment difficile, quelqu'un est là ce matin dans la souffrance, bien, cette joie elle ne peut venir que du ciel. Et c'est cette joie qui va nous permettre de l'exprimer dans les moments difficiles. Jésus était joyeux quand il voyait les âmes sauvées, quand il voyait les malades guéris, quand il voyait l'œuvre de Dieu. Pour nous, c'est pareil. Et les apôtres, c'était pareil. Paul lui-même a recommandé aux Philippiens, il a dit, soyez toujours joyeux. Et ça, ce n'est pas possible si on n'a pas le fruit de l'Esprit. Pour être toujours joyeux, il faut vraiment que ça soit la joie de Dieu qui vienne dans notre cœur. Soyez toujours joyeux, ça veut dire soyez joyeux quelles que soient les circonstances que vous traversez. Alors on peut perdre aussi sa joie, malheureusement, lorsque l'ennemi bien nous accable, nous fait porter toutes sortes de fardeaux, et le diable fera tout pour nous faire perdre cette joie. Donc veillons, frères et sœurs, sur notre cœur, sur notre conscience devant Dieu, afin que nous soyons toujours en paix avec Dieu et avec les hommes. La troisième caractéristique du fruit de l'Esprit, c'est la paix. L'amour, la joie et la paix. La paix qui signifie littéralement la quiétude du cœur ou la quiétude de l'esprit basée sur une prise de conscience que tout est en ordre entre le croyant et Dieu. La paix. Je vous laisse ma paix, dit Jésus, Jean 14, 27. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. On sait que Jésus vivait dans une paix permanente. C'est étonnant même de voir comment Jésus pouvait être dans la paix à des moments de danger. On le voit par exemple fatigué, il était en train de dormir dans une barque, et ses disciples se rendaient compte, avec la tempête qui arrive, que ça va être difficile, la barque est en train de se remplir d'eau, puis eux ils sont en train de vider la barque, et ils voient que Jésus est en train de dormir. Alors eux, bien sûr, ils s'inquiètent, et ils vont réveiller Jésus. Jésus il dormait toujours, il était en paix, mais les disciples font comme un reproche au Seigneur et disent « Mais Seigneur, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? Est-ce que ça te fait rien? Tu vas voir tous tes disciples, ils vont mourir là, et toi tu ne bouges pas. » C'est un peu la prière que nous avons parfois quand nous ne voyons pas l'intervention de Dieu, nous avons l'impression qu'il nous a abandonnés. Mais Jésus ne s'est pas inquiété à ce moment-là, alors que effectivement, humainement, en tout cas, tous les disciples étaient paniqués. Il y avait ce fruit de l'Esprit, la paix parfaite de Dieu, la paix de Dieu. Jésus a parlé au vent, Jésus a parlé à la mer, le calme est revenu. Le calme est revenu parce qu'il y a la tempête, mais le calme était revenu aussi dans le cœur des disciples, parce que la parole de Jésus a apporté la paix dans les cœurs. Amen. Et ce matin, que le Seigneur nous fasse aussi cette grâce d'avoir la paix dans les moments difficiles. La paix, ce n'est pas simplement quand tout va bien, frères et sœurs. La paix de Dieu, nous l'avons aussi, nous pouvons l'avoir dans les moments de tempête, dans les moments difficiles, où nous aurions naturellement nous serions enclins à nous angoisser, eh bien la paix de Dieu garde nos cœurs et nos pensées. Les premiers croyants vivant dans la paix, vivaient dans la paix. Par exemple, 1 Pierre 5,14, ils se souhaitaient la paix les uns aux autres. C'est la conclusion de l'épître de Pierre, il dit ceci, « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection, que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ, que la paix soit avec vous tous. » Il se souhaitait, c'était une manière de se saluer les uns les autres. Alors, que la paix, frères et sœurs, soit avec chacun d'entre vous, que nous ayons cette paix dans notre cœur, ce fruit de l'esprit qui se développe. Jésus, donc, a exprimé la paix, on l'a vu. Et si quelqu'un vit dans l'angoisse ce matin, n'a pas sa paix, bien, venez au Seigneur, confiez-vous en Jésus. Jésus a dit lui-même, ne vous inquiétez de rien. C'est une parole très forte parce qu'il y a toujours des choses pour lesquelles on peut se faire du souci. Non, c'est Paul qui a dit, ne vous inquiétez de rien. C'est Paul, l'apôtre Paul. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, etc. Donc, confions-nous dans le Seigneur, même si on a tendance à regarder vers les difficultés, ça c'est humain, c'est normal. Comme les disciples dans la barque qui regardaient vers la tempête et se voyaient perdus. Bien, n'oublions pas que Jésus est là. Est-ce que Jésus nous a déjà abandonnés? Est-ce que Jésus veut notre perte? Est-ce que Jésus voulait que les disciples y meurent tous dans la barque? Pas du tout. Donc, il faut garder la paix, même quand tout se bouscule autour de nous, parce que Jésus, il veut le meilleur pour nous. Et puis, si le meilleur pour nous, c'est parfois passer par un petit moment de secousse, de tribulation, d'opposition, eh bien, restons dans la paix quand même, parce que le Seigneur l'a permis, et il saura bien nous sortir d'affaire. La peur, elle vient de notre vision des choses, elle vient de nos calculs. Dans notre esprit, nous sommes des êtres rationnels, nous avons besoin de voir pour croire. Nous avons besoin de savoir comment ça va terminer pour croire que Jésus va nous aider. On a besoin de cela, c'est en nous, c'est comme ça, on est une nature humaine. Or la foi, c'est de croire que le Seigneur va intervenir, même quand on n'a pas vu encore sa main bouger. Donc Dieu nous demande de rester dans la paix. Il y a un verset qui dit que sa paix, elle surpasse toute intelligence. Alors nous, on a une certaine intelligence, c'est utile, mais la paix de Dieu, elle est au-delà, c'est-à-dire elle est supérieure dans les cas, par exemple, où notre intelligence va nous dire « Ouh là là, là, tu devrais t'inquiéter, tu devrais t'angoisser parce que c'est pas possible, parce que ceci, parce que cela. » Ça, c'est l'intelligence. Mais la Bible dit que la paix, elle va surpasser notre intelligence et venir en quelque sorte calmer ces angoisses et permettre qu'on reste tranquille. Ça, c'est le troisième caractéristique. Toujours dans le fruit de l'esprit, il y a quatrième, c'est la patience. La patience, macrothumia, qui signifie littéralement la persévérance. Patience dans l'épreuve. Être lent à la colère et être lent au désespoir. J'ai pensé à ce verset de Jésus qui a montré sa patience à plusieurs reprises. Ici, c'est avec les disciples d'Emmaüs, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On voit que Jésus a eu beaucoup de patience, parce que pendant 3 ans, il a enseigné les disciples, il a dû supporter certains traits de caractère, leurs imperfections, et on peut se penser qu'au bout de 3 ans avec Jésus, ils avaient quand même compris pas mal de choses. Et bien, on se rend compte que ces deux disciples-là, ils étaient complètement abattus, ils étaient perdus, ils n'avaient pas bien compris ce que Jésus leur avait expliqué. Alors Jésus, avec une grande patience de l'enseignant, il a réexpliqué tout ce qui le concernait dans la loi, dans les prophètes, etc. Et il leur a à nouveau annoncé les choses qui le concernaient. La patience de Jésus, Jésus qui n'a pas dit, écoutez, vous n'avez rien compris, je ne peux rien faire avec vous, mais il a pris le temps de les enseigner. De même, Jésus est patient avec nous, de même nous devons être patients avec nos frères, avec nos sœurs, dans tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. J'ai remarqué que Paul demande souvent aux chrétiens d'être patients. Il l'écrit aux chrétiens d'Éphèse. « Je vous exhorte à marcher avec patience. » Il l'écrit aux Colossiens. « Revêtez-vous de patience. » Il l'écrit aux Thessaloniciens. « Usez de patience envers tous. » Et j'ai pensé qu'il aurait pu l'écrire aussi aux Toulousains. « Usez de patience envers tous. » Il aurait pu mettre les trois. « Marchez avec patience. » « Revêtez-vous de patience. » « Usez de patience. » Pourquoi est-ce que Paul écrit à des chrétiens, ils sont nés de nouveau, marchent avec le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'il leur demande d'être patient comme ça à tout le monde ? Vous ne trouvez pas que c'est étonnant ? Un chrétien, est-ce qu'il n'est pas déjà patient du fait qu'il a accepté Christ dans sa vie ? Certainement, nous avons tous des progrès à faire dans le domaine de la patience, parce que, en tout cas, Paul insiste sur ce domaine. La patience, ça consiste à persévérer malgré qu'on a eu des échecs, malgré qu'on a eu des épreuves. La patience, c'est laisser encore une place, une chance pour la réconciliation, alors qu'il y a un conflit, alors qu'il y a la colère qui est en train de monter, comme il y a une expression qui dit « la moutarde nous monte au nez ». On est en train de se mettre en colère. La patience, c'est laisser une chance à la négociation, à la discussion, plutôt que de tomber dans le conflit, dans la haine, dans les tensions, les difficultés. Laisser une chance. C'est accepter aussi de supporter des situations défavorables. Être patient, c'est accepter une situation défavorable en disant à Dieu, « Bien, Dieu, tu justifieras, tu accompliras ton œuvre. » Et ainsi Dieu le fera. Ceux qui ont patienté ainsi ont vu la main de Dieu dans leur situation, parfois désespérée. Il nous faut patienter, frères et sœurs. Et la situation va se dénouer d'une manière ou d'une autre, et ainsi Dieu sera glorifié, si nous savions patienter un peu plus. Mais quand on agit avec précipitation, quand on est colérique, quand on laisse des sentiments de haine envahir notre cœur et qu'on veut régler des comptes, on n'a pas de patience. Et puis on est exigeant, on attend plus des autres que ce qu'ils peuvent donner, alors eh bien, on le regrette souvent par la suite parce que ça tourne mal. Ça c'est la patience qui est un fruit de l'esprit. Ensuite le cinquième fruit c'est la bonté. Dans le grec signifie ne pas vouloir blesser l'autre, ni lui causer de la douleur. La bonté. Christotès en grec, Jean chapitre 10 verset 11, « Je suis le bon berger, rempli de bonté. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Donc Jésus lui-même s'est présenté à nous plein de bonté. Et il n'a pas fait de privilège, il s'est occupé de chacune de ses brebis. Et c'est ce que Dieu désire. On voit que la vision de Jésus est différente de celle des disciples. À un moment donné, Jésus, qui était plein de bonté, il y a des parents avec leurs petits-enfants qui veulent voir le Seigneur. Et les disciples disent aux parents, « Mais le Seigneur n'a pas le temps de s'occuper de vos enfants. Ils font du bruit, rentrez chez vous. » Et donc, Jésus va reprendre ses disciples devant tout le monde en leur disant, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Et il les a bénis et il a pris du temps pour eux, alors qu'il y avait d'autres activités peut-être importantes. Jésus était plein de bonté envers tous, et même envers les petits-enfants qui, pour les disciples, n'avaient pas besoin qu'on s'occupe tellement d'eux. La bonté de Jésus s'est exprimée aussi envers les malades. Jésus prenait du temps, il avait compassion des malades, la compassion. Il avait de la disponibilité pour aider les autres. Que le Seigneur nous donne ce cœur-là aussi pour être à l'écoute, écouter les gens, prier avec eux, partager la souffrance. Voilà tout ce que Jésus nous demande de faire. Il nous envoie, il nous demande d'avoir de la compassion, de la disponibilité, d'écouter, de prier, de partager, etc. Et Paul nous recommande aussi de faire la même chose dans l'Église. Dans Éphésiens 4, 32, il dit « Soyez bons les uns envers les autres. » Soyez bons, soyez compatissants, il dit. Soyez vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Donc notre attitude dans l'Église, soyez bons, ça veut dire que nous devons avoir une attitude de bonté vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs. Et il y a une réciprocité. Quand on est bon envers les autres sont bons envers nous. Mais si on est dur envers les autres, si on est exigeant, sévère, les autres le seront aussi envers nous. Donc c'est un principe, c'est une bonne chose d'être bon. Et à nous de le mettre en pratique. Sixième facette du fruit de l'esprit, la bienveillance. Agathosume en grec, qui signifie avoir du zèle pour la vérité, la justice et détester le mal. Alors la bienveillance s'exprime par des actes de soit des actes de bonté ou soit des actes qui vont réprimer le mal. C'est ça aussi la bienveillance, être bienveillant envers quelqu'un. Je pense à cette parabole du bon samaritain dans Luc 10, 33. Un samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et il prit soin de lui. En fait, ce Samaritain a eu de la bienveillance envers un homme qui était mourant. Car dans la bienveillance, il y a cet aspect-là que nous rendons service à des gens qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. C'est le cas de cet homme blessé. Bien, c'est de la pure bienveillance. Jésus a illustré sa bienveillance envers les perdus par la parabole du bon samaritain. Parce que derrière ce samaritain, c'est l'image de Jésus que nous voyons envers les blessés. Ce blessé représente les perdus. Alors que c'est un homme, dit la parabole, descend de Jérusalem à Jéricho, il est agressé par des brigands, les brigands le laissent à demi-mort, ils le volent, et un sacrificateur et un lévite passent et n'ont aucune considération pour le blessé. Mais un samaritain qui, entre parenthèses, était méprisé par les juifs, rejeté, eh bien, va lui être un modèle de bienveillance pour les juifs, parce que Jésus est en train d'expliquer aux juifs, voilà ce qu'il faut être envers les autres. Et on se rend compte que l'être humain est profondément égoïste. Nous sommes tournés vers nous-mêmes. Or Jésus nous dit, la bienveillance, c'est de se tourner vers les autres et de répondre à des besoins, même s'ils ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Jésus nous a demandé d'agir envers les gens, comme lui-même il a agi envers nous. C'est ça la parabole du bon samaritain. Bien, on doit développer cette bienveillance aussi envers tous ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est le sixième fruit. Le septième aspect du fruit de l'esprit, c'est la foi ou la fidélité, ça dépend des versions, puisque c'est le même mot, pistis en grec. Pistis qui signifie foi, fidélité, ferme loyauté vis-à-vis d'une personne à laquelle on est uni par des liens d'une promesse, un lien d'engagement, de confiance et d'honnêteté. Alors, on regarde à Jésus, Hébreux chapitre 3, verset 2, dont il est dit « Il a été fidèle à celui qu'il a établi sur, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » Alors, vous avez ces deux aspects, la foi, la fidélité. Concernant la foi, c'est bien sûr la confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances, et ça, nous devons la développer. Mais aussi la fidélité, et c'est probablement le sens du fruit de l'esprit ici, la fidélité, c'est-à-dire de persévérer dans un engagement envers et contre tout. La fidélité, on la retrouve dans la parabole des talents. Lorsque Jésus explique que, bien, cette parabole, il dit, voilà, il y en avait plusieurs qui avaient reçu un certain nombre de talents. Un, il avait reçu un, l'autre, il avait reçu deux, l'autre cinq. Et puis, on ne va pas parler du premier, mais les deux derniers, ils ont fait fructifier leurs talents. L'autre, il a rapporté deux autres, et puis le troisième, il a rapporté cinq autres. Donc ils ont tous fait fructifier. Et à la fin de cette parabole, il est dit qu'il est remarqué leur fidélité. C'est bien bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et ce qui est caractérisé par ces serviteurs, c'est qu'ils ont été fidèles. Ce fruit de l'esprit, c'est la fidélité. C'est ce que nous devons développer. Et ainsi, en obéissant à la parole, en étant fidèles, et Jésus le signale, dans les petites choses. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, comment est-ce que Dieu un jour pourra nous confier des choses plus importantes ? Ce n'est pas possible. Donc cette parabole nous montre qu'il nous faut être fidèles dans les petites choses, parce que celui qui n'avait qu'un talent, peut-être c'était une petite chose pour lui, mais il n'a pas été fidèle. Et en aucun cas on ne pouvait lui confier de grandes choses. Donc ça c'est important à retenir. Le Seigneur désire que nous soyons fidèles, quel que soit les talents ou la chose qu'il nous a confiée, ne serait-ce qu'un petit service, et je dirais fidèle dans les choses qui se voient comme dans les choses qui ne se voient pas. La fidélité, elle se démontre en tout temps, parce que nous savons que Dieu nous voit. Il y a cette devise qui existe parmi les Marines américains. Ils ont un écusson sur lequel il est marqué « Semper Fidelis », qui signifie « toujours fidèle ». Et c'est peut-être un écusson que nous devrions avoir en tant que chrétiens, « toujours fidèle pour le Seigneur, et développons ce fruit de l'esprit. » Donc la foi, la fidélité. Huitième moment, la douceur. Un âne sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus donc s'est présenté à nous caractérisé par la douceur et l'humilité. Et ça nous étonne, mais c'est ainsi. Le roi des rois, c'est bien Jésus. Le soir de la Pâque, il a pris la place du serviteur ou de l'esclave. C'est-à-dire, il a lavé les pieds de ses disciples. Ça, c'est Jésus. Il est toujours le roi des rois. Mais il sait aussi être humble et être doux. Personne ne voulait prendre cette tâche ingrate de laver le pied des autres. Pierre, pas plus que les autres, pensait que c'était aux autres disciples ou peut-être à quelqu'un d'autre encore en dehors des disciples de leur laver les pieds. Mais Jésus leur a montré, c'est à nous de nous laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire de nous servir les uns les autres avec humilité. Et c'est d'ailleurs un des commandements qu'il laisse après. Il dit, faites comme je vous ai fait. Alors ce n'est pas qu'il s'agit de l'accomplir littéralement, mais c'est le principe de nous humilier les uns vis-à-vis des autres. La douceur, c'est à l'opposé de notre nature humaine. Notre nature est dure, elle est entêtée, elle est orgueilleuse. Ainsi, plus nous allons développer le fruit de l'esprit, plus notre nature humaine d'origine, elle va être brisée. Il y a un verset qui dit dans Zacharie 7, verset 2, que le cœur, il peut être dur comme le diamant. Ce verset dit, ils rendirent leur cœur dur comme le diamant. Il n'y a pas de chose plus dure sur terre que le diamant. Et pour développer la douceur de Christ, il faut impérativement que ce cœur dur soit brisé, soit changé, sinon il ne peut pas devenir doux comme cela. Voilà, ça c'est Jésus, donc on a vu sa douceur, bien qu'il ait resté toujours le tout-puissant sauveur, et à tout moment il avait tout pouvoir, mais il s'est montré humble et doux, et donc en aucun cas on ne doit écraser les autres ou s'imposer, exercer une sorte d'autoritarisme, mais se présenter avec douceur et humilité. Et enfin, le neuvième point, pour terminer sur ces fruits, ces neuf aspects du fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, en grec, qui signifie maîtriser ses passions, ses désirs, y compris la pureté, et le fait de demeurer fidèle à nos vœux, comme le mariage et les vœux que l'on peut faire. La maîtrise de soi. Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je pris cet exemple lorsque Jésus est tenté par le diable dans le désert. Voilà 40 jours qu'il jeûne. Il cherche la face de Dieu, il prie, il est en communion avec Dieu, et puis le diable vient le tenter et lui dit, ben, puisque tu as faim, fais un miracle, transforme ces pierres en pain. Ainsi tu vas manger. Jésus, en effet, aurait pu instantanément transformer des pierres en pain. Ce n'était pas impossible pour lui. Mais il a résisté à cette tentation de faire un miracle pour se satisfaire lui-même. C'était une sorte de maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi, c'est un des aspects de la maîtrise de soi, c'est de résister justement aux tentations. Quand on a une vie soumise à l'esprit, eh bien, on a la maîtrise de soi. Mais quand on obéit à sa chair ou aux œuvres de la chair, comme dit la parole de Dieu, c'est-à-dire à ses tentations ou à ses pulsions, bien, on est soumis à la chair. Donc, il s'agit bien de résister aux tentations, de résister aux excès en tout genre. La maîtrise de soi signifie aussi la tempérance, être modéré, ce qui nous rappelle que la parole de Dieu nous dit de veiller sur nous-mêmes, parce qu'on est vite prompt à tomber dans des excès. Dans quel genre d'excès ? Ça peut être l'alcool, ça peut être la nourriture, ça peut être la colère, les excès dans les paroles, les excès dans l'argent, dans le pouvoir, dans la débauche. Alors l'être humain est si instable qu'il a tendance à s'orienter dans toutes sortes d'excès. Et c'est pourquoi la maîtrise de soi, la tempérance, va être un fruit de l'esprit qui va être un signe de maturité. Ce n'est pas parce que l'on est chrétien que l'on ne connaît plus aucune tentation dans tous les domaines que je viens de citer. Elles existent. Et Jésus lui-même, qui était sans péché, a été tenté. D'ailleurs, quand on regarde, c'était la satisfaction immédiate pour la nourriture, c'était la gloire, enfin les richesses de cette terre, on pourrait dire l'argent, quand le diable lui a fait apparaître des biens financiers, etc. Ou c'était l'orgueil lorsque il a été placé au sommet du temple et lui dire « jette-toi en bas ». Donc il a été tenté dans des choses que Jésus n'avait pas. Il n'était pas orgueilleux, Il n'était pas attiré par l'argent, il n'était pas attiré par satisfaire toute cette attraction, mais il a quand même été tenté dans tous ces domaines. C'est pourquoi ne croyez pas que si vous êtes chrétien, vous ne serez plus tenté. Au contraire, nous avons la maîtrise de soi pour dire, ben justement, voilà, nous pouvons résister à la tentation. Alors on va terminer en conclusion. Le fruit de l'esprit va nous permettre de vivre davantage en conformité avec Jésus. Jésus qui est notre modèle suprême. Et c'est comme ça que nous devons comprendre le fruit de l'esprit qui va se développer par un travail du Saint-Esprit en nous. Et tous ces aspects, ces 9 aspects, doivent, d'une manière ou d'une autre, bien, se développer parce que c'est un signe de maturité spirituelle. Et un chrétien n'est pas appelé à rester bébé spirituel, mais en quelque sorte, à développer le fruit de l'esprit. Et les caractéristiques de ce fruit, c'est tout ce que Jésus a accompli, bien, nous devons aussi le manifester en nous, avec l'aide, bien sûr, de l'Esprit de Dieu. Alors, on va prier quelques instants. Ça paraît vraiment difficile de développer tous ces domaines. Peut-être qu'il y a d'ailleurs des domaines dans lesquels on est plus avancé et on a fait plus de progrès que d'autres. Néanmoins, vous voyez, avec ces 9 aspects, on a l'essentiel, on a toute la palette de ce que nous devons développer et auquel nous devons veiller. C'est pourquoi il faut y revenir régulièrement à ce fruit de l'esprit et laisser encore le Seigneur travailler nos cœurs. Merci pour ta parole, Seigneur, pour l'action de l'esprit en nous. Nous croyons que tu veux continuer cette œuvre grande et belle que tu as commencé dans notre conversion pour nous rendre encore davantage semblables à Jésus. Merci de continuer à travailler mon cœur, à travailler le cœur de mon frère, de ma sœur qui est là ce matin, afin qu'ensemble nous progressions tous dans ces domaines comme l'amour, comme la paix, la bonté, tout ce que nous avons partagé ensemble, et combien nous avons besoin encore de ta grâce, de ton secours, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, afin que nous puissions garder l'amour fraternel, malgré peut-être des désaccords, malgré des différences. Nous voulons être unis en toi, Seigneur, et manifester ce fruit de l'amour et le considérer comme supérieur à nos propres intérêts. Apprends-nous, Seigneur, à vivre selon ton esprit, à marcher dans la foi et à nous tenir dans la prière, Jésus, chaque jour de notre vie. Bénis mes frères, mes sœurs, et que ton Saint-Nom soit loué. Amen.